Radio Kapi.
Gisèle Cage à la présentation. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce journal. On commence tout de suite avec le grand titre de l'actualité. Secteur minier, le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metal signent un accord de principe pour l'exploration minière. L'entreprise s'engage à investir dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation minière assistée par l'intelligence artificielle et le développement de projets liés au lithium. Route Banzangungu-Nkamba, l'agence congolaise de grands travaux rassure sur l'avancement des travaux. En visite d'inspection, le directeur général de l'agence, Nico Nzao, promet la livraison dans le délai pour honorer la mémoire de Simon Kimbango. Filles enceintes à l'école, le ministère de l'Éducation nationale autorise désormais les élèves enceintes à poursuivre leur scolarité. Une décision saluée par certains, mais vivement critiquée par d'autres, dont le professeur Roland Vélé Rukelenge, notre invité dans ce journal. Restez à l'écoute, l'entretien arrive dans un instant. À la une ce jour, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé hier jeudi à la Cité de l'Union africaine la cérémonie des signatures d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metal. C'est le ministre de Mines Kizito Pakambomba et le directeur général des Cobalt Metals en RDC, Benjamin Katabuka, qui ont paraphé ces documents. Un accord qui marque les débuts d'une collaboration ambitieuse pour l'exploration minière en République démocratique du Congo. Objectif, attirer les investissements américains, mais dans un secteur stratégique pour l'avenir du pays. Les détails avec Grâce Hamzati.
Le directeur général des Cobalt Metals en RDC explique que cet accord s'inscrit dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cette porte qui est ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à d'autres investissements des USA en RDC, déclare Benjamin Katabuka. Selon lui, l'accord signé va s'exécuter en trois volets essentiels. L'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle, et le développement minier des projets de lithium qui se situent à Manono dans la province du Tanganyika. Il indique que la RDC a énormément de données géologiques qui ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Benjamin Katabuka a fait savoir que Cobalt Metals veut venir financer la numérisation des dites données afin de les rendre accessibles à tout le monde pour attirer les investissements au Congo dans les secteurs miniers. Il affirme que l'objectif de Cobalt Metals est d'engager plus de Congolais, de les former, de les rémunérer et de participer aussi à la construction des infrastructures pour le bien-être de la population.
Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo est engagée dans deux dynamiques diplomatiques parallèles menées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais poursuivant un objectif commun, restaurer la paix dans l'est du pays et jeter les bases d'un processus politique durable. Ces échanges visent à renforcer la coopération bilatérale ainsi que le mécanisme de collaboration conjointe. Les enjeux de ce rencontre avec vous, Jean Gandou.
À Doha, le processus est conduit sous la médiation du Qatar avec l'appui des États-Unis. Massad Boulos, envoyé spécial américain, poursuit sur place ses consultations pour faire avancer les discussions entre la RDC et le Rwanda en prélude de la signature définitive de l'accord à Washington en présence des présidents Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. En parallèle, des pourparlers se poursuivent entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23 en vue d'une déclaration des principes menant à un accord de paix. Pendant ce temps à Kinshasa, la diplomatie bilatérale s'active également. La vice-ministre des Affaires étrangères, Grâce Ayamba Kazadi, a reçu hier jeudi 17 juillet le chargé d'affaires de l'Émirat du Qatar en RDC. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Sur un autre front, la société civile congolaise appelle à une médiation africaine unifiée, inclusive et légitime. Un message porté jeudi à Kinshasa lors d'une rencontre avec Catherine Samba-Panza et Salewok Zewde, deux anciennes chefs d'État africaines engagées dans le panel de facilitation pour la paix en RDC. Entre diplomatie régionale, internationale et mobilisation de la société civile, les efforts convergent vers une même ambition, faire taire les armes et reconstruire une paix durable en République démocratique du Congo.
Réhabilitation routière au Congo central. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, Nico Nzao, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux sur la route Banzangongo-Nkamba, longue de 47 kilomètres. Il s'est exprimé à l'issue d'une visite d'inspection effectuée samedi dernier à la tête d'une importante délégation. Ces chantiers qualifiés de route de la passion est un projet initié par le chef de l'État pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu. Nico Nzao a rassuré que les travaux seront livrés dans le délai imparti. Il s'est confié au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
Ce projet, c'est un projet très très important pour le pays parce que c'est un projet qui était initié par le président lui-même lors de ses nombreuses visites ici à Nkamba. Et notre ministre des ITP a demandé à ce que nous puissions suivre au quotidien ce qui se passe. Et voilà la raison pour laquelle je suis venu sur place pour constater l'effectivité des travaux. Nous avons pu transmettre ce sentiment de fierté et de satisfaction au père spirituel qui nous a reçus et nous avons donné l'espoir des assurances pour lui dire que tout va se faire dans les délais tout en respectant la qualité. Nous avons aligné le projet de Mbujimayi Ngouba, le projet de Rokade, le projet de la route Kananga-Kalamambouji et le projet de Manterne Tchela-Singini. Et voilà le cinquième projet que nous avons aligné, c'est la route de la passion. Tous ces packages-là, nous avons pensé qu'au rythme des travaux qui sont effectués, eh ben, on pourrait tous les livrer en fin 2027.
Financés par le Trésor public, les travaux bénéficieront bientôt d'un appui financier du programme sino-congolais, notamment pour la portion Ménon jusqu'à l'aérodrome d'Nkamba. Polémique autour d'une décision ministérielle, la récente circulaire de la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté continue de faire débat et leur donne le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires, une mesure qui divise l'opinion. Pour certains, c'est une avancée majeure contre l'injustice sociale et l'exclusion. Pour d'autres, au contraire, l'exclusion des élèves enceintes constitue une forme de sanction éducative nécessaire. Quelques Kinois ont réagi à ce sujet. Ils sont au micro de Rachel Kessembangu.
Je suis totalement d'accord avec cette circulaire du secrétaire général à l'éducation nationale parce que nous voyons aussi les taux d'analphabétisme chez les jeunes filles et la déperdition scolaire sont élevés. C'est parce que lorsque une jeune fille est enceinte, il a la honte. Il y a même des écoles qui prennent des décisions que cette fille ne doit plus continuer les études alors que c'est faux.
On a toujours milité pour que les filles ne soient pas discriminées parce qu'on dit fille-mère. Mais on ne dit pas garçon-père. Donc, il faut que le droit soit pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des discriminations, qu'il y ait des inégalités. Quand une fille tombe enceinte et qu'on puisse la radier de l'école, ça signifie que vous brisez aussi son avenir, sa carrière. Donc, il faut laisser la fille évoluer pour lui donner la possibilité aussi d'évoluer comme les jeunes garçons. Parce que l'acte a été fait entre un homme et une femme.
Je suis contre parce qu'il y a certaines filles qui se méconduisent à la maison. Les parents peuvent beau parler, mais l'enfant n'écoute pas. Et quand l'enfant tombe enceinte, pour moi, c'est comme une conséquence à la désobéissance des parents. Pour moi, la fille devait assumer ses responsabilités. Elle devait arrêter les études jusqu'à ce qu'elle accouche et puis elle va continuer les études.
Restons sur le même sujet. Exclure une fille enceinte de l'école, c'est lui infliger une double peine. C'est par ces mots que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a réagi à une question d'un journaliste hier jeudi à Kinshasa lors du traditionnel briefing de presse. Le ministre a rappelé que la République démocratique du Congo est engagée à respecter plusieurs conventions internationales, notamment celles qui interdisent toute forme d'exclusion des enfants du système éducatif. On écoute Patrick Muyaya, propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Non seulement que notre propre constitution dans cette institution est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droit de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partant du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Les bourreaux, il est où? On en fait quoi? Les bourreaux, là, qui est derrière ces grossesses. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que nos libertés, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. C'est pas seulement les réseaux sociaux. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et n'est pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? Il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger.
Lutte contre la pêche illicite au Nord Kivu. 200 alevins fumés ont été saisis au point de contrôle des Vimbao avant d'être publiquement détruits à Kassindiport par le service compétent. Cette opération a été menée par les équipes de l'ICCN avec le soutien du comité des pêches, de l'Agripel, du service de l'environnement et de la société civile locale. Objectif, renforcer la lutte contre la pêche illicite sur le lac Édouard, notamment dans la zone des Kassindiport, et freiner le trafic d'alevins dans la région, précise le parc national des Virunga. Les précisions avec Denise Lukesso.
Grâce à cette collaboration renforcée, plusieurs opérations ont été réalisées ces dernières semaines, indique le PNV. C'est notamment la saisie d'une pirogue utilisant un filet électrique sur la rivière Lubiria, la destruction d'une vingtaine d'alevins fumés à Vimbao, et parallèlement, des actions de sensibilisation auprès de communautés locales ont été également menées. La réglementation de la pêche constitue un enjeu crucial pour la région, dit le PNV. En effet, les ressources halieutiques du lac Édouard contribue de manière significative à la sécurité alimentaire des populations riveraines. Dommage de constater qu'à cause de la pêche illicite, la quantité de poissons a fortement diminué, exposant de nombreuses familles au risque de famine et poussant certains pêcheurs désespérés à franchir illégalement la frontière lacustre entre la RDC et l'Ouganda. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement arrêtés et leurs pirogues confisquées. En renforçant la surveillance sur les lacs, il est possible d'inverser la tendance et de replacer les lacs Édouard au cœur du bien-être des populations locales, renchérit les PNV.
Assainissement à Kimbaseke. La commune a reçu ce mercredi des kits d'assainissement dans le cadre de la deuxième phase du projet professionnalisation de la police pour la population et la paix, plus connue sous le nom de P4P. Cette initiative est portée par l'agence japonaise de coopération internationale JICA en partenariat avec l'ONU Habitat, la police nationale congolaise et le gouvernement. Kimbaseke a été choisi comme commune pilote pour expérimenter ce projet qui vise à renforcer la collaboration entre la population et les forces de l'ordre tout en améliorant le cadre de vie. Un reportage signé Babel Mpongo Massimango.
Ce kit comprend un tricycle, une moto, une dizaine de chariots, des lampadaires, une dizaine de bacs poubelles, une vingtaine de pelles, des casques, des extincteurs, des gilets et autres. C'est pour aider à améliorer les espaces publics urbains au quartier Kisanto qui a été choisi comme site pilote à Kimbaseke. Un travail qui sera effectué par le Conseil local de sécurité de proximité, CLSP, sur place. Claude Albert Meche, chef de bureau RDC de ONU Habitat, dans le sens de cette cérémonie.
L'apport d'ONU Habitat était d'apporter une contribution dans l'élaboration du plan local de sécurité et rendre opérationnel le CLSP en identifiant les points d'insécurité, d'insalubrité et en proposant des solutions. Cette cérémonie visait à mettre à disposition du comité local de Kimbaseke du matériel pour aller transformer le quartier en un espace où il fait plus de sécurité.
Pour le représentant de la JICA, la deuxième phase du projet se poursuit.
En septembre, on va finir P4P phase 2. On est en train de préparer les phases 3.
Mimi Biké, la représentante du gouverneur de la ville, appelle à bien utiliser ce matériel pour une bonne application du programme Kin Ezobonga. C'est la joie pour la chef de quartier qui s'en touche la cite. Le manque de matériel de travail nous handicapait beaucoup. Maintenant que nous venons d'en recevoir, nous allons travailler pour rendre notre quartier propre.
Lutte contre la poliomyélite au Congo central. La première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier jeudi dans les 31 zones de santé de la province. L'opération se déroulera du 17 au 19 juillet. C'est le ministre provincial intérim de la santé qui a donné le coup d'envoi de cette campagne dont l'objectif est clair: éliminer les poliovirus sauvages et ses variantes après la détection d'un cas dans le territoire de moins Rwanda. À cette occasion, Thomas Kyakokwa a salué la vision du président de la République en matière de couverture de santé universelle qu'il considère comme une réalité palpable au Congo central. Les précisions avec Nana Pleurish Mambo.
La stratégie adoptée est les porte-à-porte. Et ce sont 989 809 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus pour cette campagne. Ces enfants reçoivent chacun deux gouttes orales du vaccin anti-polio pour augmenter leur immunité face à la poliomyélite qui continue à circuler dans certaines provinces, dont le Congo central, où un cas a été détecté. Il faut donc lutter contre la circulation des poliovirus sauvages. Dans son discours, le ministre a dit intérim de la santé Thomas Kyakokwa a demandé aux parents et gardiens d'enfants de faciliter la tâche aux prestataires pour les biens des enfants. Il a profité de la circonstance pour remercier les partenaires dont l'OIM, UNICEF, OMS et autres pour leur implication dans la lutte contre la poliomyélite. Matadi, Nana Pleurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président burundais Evariste Ndayishimiye a été désigné ce jeudi 17 juillet envoyé spécial de l'Union africaine pour le Salé. Sa mission intensifier les échanges diplomatiques sur le gouvernement de la région et œuvrer pour le retour de la paix dans une zone marquée par l'instabilité sécuritaire. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso suspendus de l'Union africaine à la suite des coups d'État font face à une menace djihadiste persistante. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a confié cette mission stratégique à un chef d'État perçu comme neutre et engagé. Sur le réseau X, Evariste Ndayishimiye a réagi en déclarant accepter avec humilité et responsabilité cette noble mission. Selon une source diplomatique à Bujumbura, cette nomination récompense ses efforts pour sortir le Burundi de l'isolement diplomatique hérité de son prédécesseur. Très actif sur la scène continentale, Ndayishimiye est président en exercice du commissariat champion de l'Union africaine pour la jeunesse et premier vice-président de l'Union africaine. Il est d'ailleurs appelé à prendre la présidence de l'Union africaine en février prochain.
L'invité.
En République démocratique du Congo, un tournant majeur dans le système éducatif. Les filles enceintes sont désormais autorisées à poursuivre leur scolarité. C'est ce que stipule une note circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté datée du 14 juillet. Le document met fin à toute mesure d'exclusion des élèves enceintes tant qu'elles expriment leur souhait de rester à l'école. Mais cette décision, saluée par certains, suscite aussi des vives réactions. Pour en parler, nous recevons le professeur Roland Vélé Mukelenge, docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique et des universités coréennes. Il estime que cette mesure devrait tout simplement être retirée. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Professeur Roland Vélé Mukelenge, bonjour.
Bonjour.
Professeur, selon une note circulaire signée le lundi 14 juillet, les filles enceintes seront désormais maintenues dans leurs établissements scolaires. Comment appréciez-vous cette décision?
Il s'agit d'une décision apparemment salutaire pour les filles mères, mais si vous en faites une analyse dialectique, vous vous rendez compte très vite qu'il s'agit d'une décision suicidaire. Suicidaire dans la mesure où non seulement ce n'est pas que on refuse la stigmatisation, mais au contraire, au nom de la stigmatisation, on impose la stigmatisation. C'est ça les dessous de la carte de cette décision. Pourquoi? Tout simplement parce que les élèves à l'école sont régis par des normes, pas des règlements. Et tout élève qui commet une faute morale doit être puni. Et une élève qui est enceinte à l'école, n'est-ce pas, a violé les normes de l'école. Et donc, dès qu'elle viole les normes de l'école, elle doit être sanctionnée. Et donc, il n'y a pas à dire, voilà, parce qu'elle a fait ça, et les filles, tenant compte de sa situation des filles, il faut la garder à l'école. Non, l'école, je l'ai dit, a une dimension hautement morale. Au-delà de l'organisation matérielle et tout, c'est la dimension morale qu'il faut préserver. Et les autorités politico-administratives, qui sont l'État qui est l'organisateur de l'enseignement national, doit justement veiller à ce que cette dimension morale soit maintenue. Et cette décision vient justement saboter les efforts éthique dans notre pays.
Mais il n'y a jamais eu de loi qui interdise de renvoyer les filles enceintes. D'après vous, pourquoi les chefs d'établissement scolaire mettent-ils à la porte des filles enceintes quand on sait que certaines sont victimes de viols et autres du mariage précoce?
Non, mais d'abord je vous dis que ce n'est pas seulement qu'on mette les filles dehors, mais il y a une auto-exclusion. Déjà sur le plan moral, les filles elles-mêmes parfois se disent « dans mon état je peux plus ». Elles partent, ça c'est un cas. Mais il y a d'autres cas aussi pour lesquels l'école doit interpeller, parce que l'école doit veiller sur la moralité et de la fille et des autres qui sont là, et même du personnel. Donc c'est une mesure qui est tout à fait normale. Ça n'a rien à voir avec la discrimination.
L'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes estime que l'application de cette mesure devrait être suspendue. Enfin, qu'en pensez-vous?
Ah oui, bien sûr que oui. Mais il y a des partenaires éducatifs. L'État ne fonctionne pas seul. Il y a des confessions religieuses, il y a des ONG, il y a plusieurs partenaires. La ministre devait convoquer les partenaires, discuter avec eux pour voir les conditions de faisabilité. Et la loi prévoit l'éducation non formelle, la création des écoles spécialisées. Et ça, c'est tout à fait important. Il faudra que l'on puisse placer ces élèves. Il faut d'abord suspendre, moi j'ai dit bien suspendre, leur participation aux activités scolaires, plutôt le faire revenir plus tard. Ça, c'est important pour sauvegarder ce qui nous reste à sauvegarder. Et ça, c'est très, très important. Et à la fin, on doit analyser pour voir dans quel contexte on peut le prendre, dans quel contexte on peut prendre telle décision ou telle autre. Mais j'ai comme l'impression que la ministre a fait ça seule.
Mais pour la NAPECO, donc l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, cette décision est la bienvenue car elle place les élèves, filles et garçons, sur les mêmes pieds d'égalité. Êtes-vous d'accord avec elle?
Je ne suis pas d'accord et j'ai dit, il faut dépolitiser toutes ces associations. Je crois que ces associations, c'est des déclarations graves. Alors je me demande s'ils sont vraiment des associations des parents. Parce que des parents conscients ne peuvent pas faire passer ce genre de décision.
Pourquoi pensez-vous que les élèves enceintes devraient être marginalisés?
J'ai dit que c'est pas de la marginalisation, c'est la sanction. C'est la sanction. Il faut sanctionner un garçon qui se bat à l'école, qui frappe un autre. Mais il est renvoyé dans des écoles sérieuses. C'est pas de la marginalisation. Une fille qui est grosse à l'école, c'est des antivaleurs. On ne peut pas parler de marginalisation. Voilà, c'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on mette la femme comme un être qu'on doit traiter de manière spéciale. C'est un humain, c'est une élève, comme toutes les autres élèves.
Donc un élève garçon,
oui,
qui enceinte une fille, quand l'école est au courant, on les chasse de l'école.
Alors, je précise, ici, ce qu'on sanctionne souvent, c'est quoi? C'est les conséquences de l'acte. Vous comprenez? Les filles doivent avoir une conscience éclairée pour dire « Attention, ce que je suis en train de faire, les conséquences vont porter sur moi-même. » Parce que quand on fait les rapports sexuels, on est dans des lieux secrets. Mais les conséquences tombent sur la fille, malheureusement. Et donc, la fille doit prendre conscience que j'ai une grande responsabilité et je ne dois pas faire n'importe quoi, parce que j'essaie de sanctionner. C'est une sanction, c'est pas une marginalisation.
Professeur Roland Vele Mukelenge, professeur des universités, je vous dis merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le professeur Roland Vele Mukelenge. Il s'exprimait sur la récente décision du ministère de l'Éducation nationale autorisant les filles enceintes à poursuivre leur scolarité en RDC, une mesure qu'il juge contestable et appelle à retirer. Un entretien conduit par Blaise Shindani Kambala. Et voilà, ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre attention tout au long de cette session d'information. N'oubliez pas que l'information continue et que nous serons ravis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez connectés. À très bientôt.